Coupez le gui, coupez le hou. Feuillage vert, feuillage roux, mariez leurs branches. Perles rouges et perles blanches, coupez le gui, coupez le hou. C'est la Noël, fleurissez-vous. Courez à la forêt prochaine, courez à l'enclos des fermiers. Coupez le gui sur le grand chêne, coupez le gui sur les pommiers. Chassez les grives et les merles, chassez la mésange au dos bleu. Du gui dont les fleurs sont des perles, du hou dont les fleurs sont du feu. Chronique amoureuse des plantes mal aimées. Présentée par Lo, une passionnée des rituels et des plantes, et une naturopathe, Aurélie d'Aïla Naturo.
Mauvaise graine. Mauvaise graine.
Aujourd'hui, nous allons vous parler du nid de sorcière,
de la quiche de bique,
du cabaret,
du ver de pommier,
du grivela,
du glu,
de l'eau de chêne,
du viscarade.
Et par chez nous, on l'appelle le guin, c'est-à-dire le gui, du nom latin viscum album.
Alors, comme toujours, on commence par l'étymologie. Donc, du latin viscus, qui veut dire glu, et de alba, qui veut dire blanc. Donc, très simple comme étymologie. Notons que gluant vient de gui, et visqueux vient de viscus, par déformation des mots.
Tout s'explique. Et alors, nous allons enchaîner avec la botanique. Alors, qu'est-ce que c'est le gui? C'est un petit arbrisseau de la famille des santalacées, comme le santal, et la plupart sont des hémiparasites, principalement sur des racines. Le gui donc, est une espèce de plante qui ne possède pas de racines, mais se fixe sur un arbre hôte dont elle absorbe la sève grâce à un ou plusieurs suçoirs. Dans la nature, le gui pousse sur une quarantaine d'espèces d'arbres, arbustes et arbrisseaux, conifères ou feuillus. On a pu mettre en évidence 3 sous-espèces, dont 2 sur conifères, qui sont relativement sélectives. Donc le gui du sapin, il se développe uniquement sur le sapin blanc et quelques autres sapins introduits. Le gui du pin, lui, choisit différentes espèces de pins, quelquefois l'épicéa commun. Et enfin, le gui des feuillus apprécie aussi bien les pommiers que les peupliers, ce sont les arbres les plus fréquemment parasités.
Il peut aussi se développer sur les aubépines, les sorbiers, les tilleuls, mais moins sur les saules, les amandiers, les érables et les robiniers.
Il est beaucoup plus rare sur les frênes, noisetiers, poiriers, bouleaux, cerisiers, charmes et châtaigniers, et exceptionnel sur les ormes et les chênes. Et le hêtre, lui, ne semble jamais être parasité. Le chêne, donc, ça s'explique parce qu'il a une propriété génétique qui empêche la pousse du gui, parce qu'il sécrète une substance toxique, ce qui pourrait expliquer que le chêne à gui, donc le rouvre, est rare et était très prisé par les rituels druidiques.
À noter que le gui s'installe sur des essences différentes en fonction des régions et sa capacité à se fixer sur un arbre dépend de son taux de tanin. Sa toxicité varie aussi avec l'hôte auquel il est attaché. Ainsi, celui du peuplier sera plus toxique que celui du pommier.
Il a la particularité d'être toujours vert, voire ultra vert. Ses fleurs sont vertes aussi et son feuillage persiste en hiver après la chute des feuilles des arbres et après avoir été coupé. En hiver, c'est le moment où il devient facilement repérable, alors ouvrez l'œil. Pour connaître l'âge du gui, il faut observer sur une branche coupée en regardant l'enfoncement de ses suçoirs dans les cernes du bois, ce qui permet de déterminer l'âge de la touffe qui peut atteindre 35 ans. Et le gui donc est dioïque.
Donc on se souvient, dioïque, c'est-à-dire qu'il y a des papas et des mamans, des pieds à fleurs mâles et des pieds à fleurs femelles.
Et il fleurit donc en mars-avril. Les fruits donnés par les touffes femelles sont blancs ou jaunâtres pour le gui du sapin. Charnue et visqueuse, d'où le terme viscum. La pulpe translucide est constituée d'un mucilage, la viscine, substance collante qui contribue à la fixation des graines sur les branches des plantes hôtes.
Et il arrive même qu'il parasite un autre gui. La particularité du gui aussi, c'est que ses fruits sont mûrs en plein hiver, voire même à la fin de l'hiver.
Et donc la dispersion des graines est surtout assurée par des oiseaux. notamment les grives et les fauvettes noires, qui raffolent des fruits et rejettent donc les graines non digérées dans leur fiente, parfois à plusieurs kilomètres. Il y a aussi les mésanges et les sittelles qui, elles, se nourrissent des graines collées sur les rameaux par les fauvettes. Donc 8 à 9 graines sur 10 sont donc repérées et mangées par ces passereaux en hiver.
On voit bien qu'ils représentent un formidable vivier de nourriture pour tous ces oiseaux pendant cette période de disette.
Oui, et le feuillage du gui a parfois été utilisé comme fourrage pour compléter l'alimentation des bestiaux à la mauvaise saison. Il était réputé pour favoriser la lactation des vaches et des chèvres. Et maintenant, nous allons aborder les croyances qu'il y a par rapport au gui. Souvent, on dit que sa présence affaiblit l'arbre hôte. En principe, le gui n'attaque pas les cellules de l'arbre parasité, il ne décompose pas le bois, même s'il en diminue la qualité pour l'utilisation de l'homme. On peut bien reconnaître ça. Il est parfois difficile de savoir si l'affaiblissement de l'arbre il est causé par le gui ou si c'est seulement le fait que le gui a profité d'un arbre âgé ou affaibli pour s'installer. On remarque quand même que les monocultures d'arbres ou les alignements semblent aussi faciliter la diffusion des graines par les oiseaux.
Une deuxième question importante qu'on se pose sur le gui, est-ce qu'un authentique parasite ou seulement un opportuniste? Alors, comme nous pouvons l'observer, le gui est vert. Ses tissus contiennent donc de la chlorophylle. Il est capable d'utiliser la photosynthèse pour produire sa propre matière carbonée à partir de la sève brute de son hôte. Pour cette raison, le gui est le plus souvent considéré comme un hémiparasite, c'est-à-dire qu'il ne dépend pas complètement de son hôte.
Et pourtant, il y a certaines études qui montrent récemment que la plante, elle, profite également au printemps de la libération des glucides dans la sève brute de son hôte et donc pourrait devenir un parasite complet à certains moments courts de son développement.
Pourtant, en échange de la sève brute prélevée par les suçoirs, le gui renverrait à son hôte des sèves élaborées riches en substances nutritives qui émigrent dans l'arbre. La démonstration de cette interaction a été faite sur un pommier porteur de gui à qui toutes les feuilles ont été coupées au printemps. L'année suivante, on a constaté que l'arbre n'était pas mort et qu'il s'était de nouveau couvert de feuilles. Enfin, pendant 6 années consécutives, la même expérience a été renouvelée sans dommage pour l'arbre. Ce qui prouve que le gui avait réussi à maintenir la circulation de la sève. Non seulement il n'avait pas tué son hôte, mais il lui était venu en aide.
Et cette expérience reste quand même plutôt unique, donc il faudrait d'autres expériences semblables pour comprendre le mécanisme qui lie le gui à son hôte. Le mystère reste entier.
Il ne faut pas oublier à propos du gui l'admiration que les Gaulois ont pour cette plante. Aux yeux des druides, rien n'est plus sacré que le gui et l'arbre qui le porte, si toutefois c'est un rouvre. Tout gui venant sur le rouvre est regardé comme envoyé du ciel. Ils pensent que c'est un signe de l'élection que le dieu même a faite de l'arbre. Le gui sur le rouvre est extrêmement rare. Et quand on en trouve, on le cueille avec un très grand appareil religieux. Avant tout, il faut que ce soit le 6e jour de la lune, jour qui est le commencement de leur mois, de leur année et de leur siècle qui dure 30 ans. Ils l'appellent d'un nom qui signifie « remède universel ». Ayant préparé selon les rites sous l'arbre des sacrifices et un repas, ils font approcher 2 taureaux de couleur blanche. Un prêtre vêtu de blanc monte sur l'arbre et coupe le gui avec une serpe d'or. On le reçoit sur une serre blanche. Puis on immole les victimes en priant que le dieu rende le don qu'il a fait propice à ceux auxquels il l'accorde. On croit que le gui pris en boisson donne la fécondité à tout animal stérile et qu'il est un remède contre toutes les poisons. Tel est le comportement religieux d'un grand nombre de peuples à l'égard des choses insignifiantes. Donc dans ce texte de Pline qu'on vient d'écouter, on voit le déroulement du rituel du solstice d'hiver chez les Celtes. Si le gui est sacré pour les Celtes, comme on l'a vu, il l'est aussi pour d'autres cultures. Donc on va commencer par les Grecs. Le gui est associé à Perséphone chez les Grecs. Perséphone, fille de Zeus et de Déméter, déesse de la fertilité et des moissons, devient l'épouse d'Hadès et devient de fait déesse du monde souterrain. Elle remonte sur Terre après 4 mois d'hiver pour provoquer le printemps. Et pour ce faire, elle utilise un rameau d'or, le gui donc, pour ouvrir et fermer les portes de l'enfer.
Et j'ai lu aussi qu'il est associé à Hermès.
Oui, c'est ça. Hermès, le messager des dieux, il est aussi dieu de la santé. Et je pense que c'est parce que, comme on le dit, le gui est remède universel. On va passer à la mythologie nordique, dans lequel il est associé à Balder. Et c'est le moment de la petite histoire mythologique du jour.
Chouette.
Balder, fils d'Odin et de Frigg, donc les dieux principaux nordiques, lui-même est dieu de la lumière, de la beauté, de la jeunesse, de l'amour et du bonheur. Il fait des cauchemars récurrents de sa mort. Donc sa mère, Frigg, pour contrer le présage, passe dans les neuf mondes pour faire jurer à chaque être, chaque chose, de ne jamais blesser Balder. Donc le feu, l'eau, les pierres, les métaux, toutes les plantes, tous les oiseaux et toutes les maladies jurent d'épargner Balder. Donc Frigg est soulagée. Et du coup, les dieux inventent un nouveau jeu qui trouve ça très drôle de jeter toutes sortes de choses sur Balder et il les voit en fait léviter à chaque fois qu'il les jette. Loki, qui est toujours jaloux de Balder, se déguise en vieille femme et réussit à faire avouer à Frigg qu'elle a laissé de côté le gui, une plante qui lui paraissait complètement inoffensive. Donc Loki prend une branche de gui et fabrique une flèche avec. Il persuade le frère aveugle de Balder de tirer cette flèche vers Balder. La flèche perd son cœur et il tombe mort. Ce fut une grande tragédie chez les dieux nordiques et depuis ce jour, le gui qui était un arbuste devient une toute petite plante qui est bannie bien en haut dans les arbres, alors qu'il n'y était pour rien à la base.
Et pour revenir aux Celtes, alors, pourquoi il est sacré pour eux ?
Alors, pour plusieurs raisons. Premièrement, il pousse sur le chêne, un arbre qui a une place particulière. Il est symbole de puissance, de force et de sagesse. Le gui qui arrive à y pousser prend ses propriétés. Et comme il se trouve en hauteur, il est au plus près des esprits supérieurs. De plus, il est transporté par les oiseaux qui sont pour les Celtes des messagers divins. Il est d'autant plus sacré qu'il est rare. Deuxièmement, le chêne est solaire. Et le gui, de par sa forme en boule et de par ses fruits ronds et blancs, c'est un symbole lunaire, donc c'est une symbiose parfaite, une sorte de yin et de yang. Ainsi, le gui cueilli au solstice d'hiver suivant le rituel décrit plus tôt, sert de protection. Il rend les guerriers invincibles, invisibles, il protège celui ou celle qui le porte en talisman, ainsi que les maisons où il est accroché. Il éloigne les mauvais démons et attire les esprits protecteurs. Il est dit « guérit tout », on a vu. Mais pour les Celtes, il représente surtout une guérison symbolique de par son pouvoir de purification des âmes, renforcement des liens et de régénération du clan. Enfin, il est symbole du renouveau à venir, car il est cueilli au moment où l'obscurité est la plus grande. Il annonce le printemps, car il contient la semence de feu. Donc il est symbole de régénérescence, d'éternel retour, de jeunesse, d'immortalité et de la survie de l'âme après la mort. Les feuilles de gui représentent les âmes souffles, qui constituent le souffle primordial, celui duquel tout est né, début de tout rituel, et complètement immortel. Pendant une bataille, les guerriers qui se retrouvaient accidentellement dessous une boule de gui faisaient une trêve pour l'honorer, tellement cette plante est importante.
Et donc, d'où vient la tradition de s'embrasser sous la boule de gui ?
Alors là, elle nous vient plutôt du monde nordique et de Freya, qui est une déesse de l'amour, de la beauté et de la fécondité. Et donc, pour l'honorer, un homme devait embrasser toute jeune fille qui, sans s'en rendre compte, se trouvait par hasard sous un bouquet de gui suspendu.
Avant de parler de la partie médicinale, je vais vous parler de la toxicité du gui. Tout le monde n'est pas d'accord, a priori, par rapport à cette toxicité, qui serait liée donc à la présence de protéines comme la viscotoxine et la lectine. Elles sont présentes dans les parties aériennes avec une prédominance dans les feuilles et dans une moindre mesure dans les baies. Les centres antipoison enregistrent peu de symptômes, diarrhée, douleur abdominale, suite à l'ingestion de baies. Leur toxicité est donc jugée de niveau faible, sauf pour les enfants. On a retrouvé des cas d'intoxication mortelle chez les enfants avec seulement 2 baies. Chez l'adulte, les troubles digestifs apparaissent à partir de 5 baies et les accidents graves, donc troubles cardiaques, troubles respiratoires, voire asphyxie et bradycardie, surviennent à partir d'une 10aine de baies. De leur côté, donc Maria Treben et Fabrice Bardot nous disent que les baies blanches du gui sont vénéneuses. Seules les feuilles et les tiges sont utilisées et on les recommande en cueillette à partir du mois de mars. Les oiseaux ont mangé les boules et donc la plante serait bénéfique. Pour les Corses, la récolte se fait à la fin de l'automne. Le gui doit être séché avec soin pour ensuite en séparer l'écorce.
Alors un truc qui est chouette avec le gui, c'est quand on le sèche de façon convenable, il devient tout doré.
À utiliser pour la déco. Cazin, célèbre médecin français du 19e, utilise lui l'écorce en interne pour son efficacité sur la sphère nerveuse. C'est utile en cas d'épilepsie, de convulsion, de toux nerveuse, parce qu'il agit sur la régulation des glandes et qui a une action antispasmodique, c'est-à-dire antidouleur. C'est aussi un sédatif et un anxiolytique. Il était parfois employé contre les maux de tête, les angoisses et l'hyperactivité infantile. En usage externe, la décoction de branchettes serait capable de diminuer la sensibilité au froid et d'éviter les engelures.
Alors, cette dernière propriété serait liée à sa symbolique, le gui restant vert en saison froide et supportant très bien le gel.
Il est aussi indiqué dans les maladies articulaires inflammatoires et dégénératives. Là, on peut faire un cataplasme de feuilles et de fruits pilés qui calme la douleur de la goutte ou de la sciatique, par exemple.
Alors, le gui se vend encore sous forme de produits séchés, d'infusions, de gélules et de gouttes de gémothérapie, essentiellement pour les troubles circulatoires et l'hypertension.
Effectivement, les feuilles et quelquefois la plante entière ont des propriétés vasodilatatrices et hypertensives, grâce à l'action de certains composés chimiques comme la choline, l'acétylcholine et les saponosides. C'est un grand hypotenseur, particulièrement efficace chez les gros mangeurs. Il permet aussi de lutter contre l'artériosclérose, c'est-à-dire le gras qui se dépose dans les artères, et régule le rythme cardiaque. Donc, par ailleurs, on a la théorie des signatures qui nous le recommande notamment en cas de vertige, d'après François Couplan. Et selon Delavaux, on peut penser à la lutte contre le cancer avec le gui, parce qu'assez curieusement, chaque pousse annuelle donne toujours naissance à deux nouveaux rameaux, d'où sa forme en boule. On peut faire donc un rapprochement entre ce mode de développement et la mitose, c'est-à-dire la division par deux. Actuellement, donc, des préparations pour diminuer les effets du cancer utilisent le gui avec une action antimitotique qui ralentit la division cellulaire. On a commencé à étudier le gui dans sa composition chimique au 19e siècle, donc ce n'est pas terminé. On a encore plein de choses à découvrir, mais on sait que les viscotoxines contrarient le développement des tumeurs et stimuleraient le système immunitaire. D'ailleurs, la médecine anthroposophique, elle, utilise des injections d'une préparation à base de gui fermenté contre certains cancers. Il s'agirait de la préparation de l'iscador.
Alors, la médecine anthroposophique est une application de l'anthroposophie, une doctrine spirituelle controversée, fondée par Rudolf Steiner, connue par exemple pour la biodynamie.
Et donc, cette préparation, elle est utilisée en Allemagne pour améliorer le bien-être des malades du cancer en soins palliatifs. Par contre, elle est interdite à la vente en France et aux États-Unis.
En plus, il n'existe pas à l'heure actuelle d'études scientifiques reconnues démontrant l'efficacité de l'iscador dans le traitement du cancer. Les études sont nombreuses, mais contradictoires et peu convaincantes.
Et pour finir, on va parler du gui coréen, qui fait actuellement l'objet de recherches prometteuses. La prise orale de la plante aurait un effet significatif sur l'accumulation de gras chez les souris obèses. Et cela pourrait servir à un traitement ciblé dans les cas d'obésité et de stéatose hépatique, c'est-à-dire un excès de gras dans le foie. Et alors attention, à l'utilisation du gui à des fins thérapeutiques doit se faire sous la supervision d'un thérapeute absolument. Par voie orale, le gui peut être toxique lorsqu'on dépasse les doses. Vous ne devez pas utiliser le gui dans les cas suivants. La grossesse ou l'allaitement, si vous êtes allergique au gui, et si vous utilisez des médicaments comme des hypertenseurs, des antidépresseurs ou des bêta-bloquants gardiens.
Et pour conclure, n'oublie pas que tu as jusqu'à la fin janvier pour accrocher du gui chez toi et laisser faire le hasard. On ne sait jamais qui passe dessous.
Nous remercions toutes les mauvaises graines qui ont participé et permis la réalisation de cette émission. Nous nous retrouvons le mois prochain, le 3 janvier, pour un nouveau sujet qui t'aidera pour tes prochaines sorties nature.
Chouette. N'oublie pas de visiter notre page Instagram, 2 comme le chiffre 2, de mauvaises graines, pour nous laisser des messages et des commentaires, ça nous fait toujours plaisir, et suivre nos actualités.
À bientôt.
Bonne journée.